Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Festival étonnant voyageur, une émission enregistrée en public le samedi 3 juin et où nous avons le plaisir d'accueillir Russell Banks à l'imparfait du subjectif. Bonsoir Russell Banks.
Bonsoir.
Cette musique vous est dédiée. C'est une musique des années 50 en Jamaïque. On va évoquer souvent vos parcours du côté des Caraïbes. Alors vous êtes né, je redonne quelques petits éléments de votre biographie que je crois nous sommes assez nombreux à connaître car vous avez un immense lectorat en France. Vous êtes né en 1940 dans le Massachusetts, dans la banlieue de Boston. Votre enfance est dans le New Hampshire, donc c'est cette Amérique de la côte nord-est et l'Amérique des petites gens qui est souvent peu perceptible à l'extérieur. Les Français connaissent New York, San Francisco et parfois New Orleans. Vous avez vécu et travaillé en Floride et à la Jamaïque. La Floride, vous y vivez une partie de l'année. Et on a l'impression, en vous lisant, et notamment ce dernier livre, Récit de voyage, voyager ou voyageur, on a l'impression que c'est à cette partie du monde que vous êtes le plus attaché. Est-ce le cas, Russell Banks?
Well, thank you for inviting me here today. It's a great pleasure to be back at Saint-Malo. This is now the third time that I've been here.
D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et d'être à Saint-Malo. Et c'est la troisième fois que je suis invité, ce qui est toujours un plaisir.
And you're right. I was raised in small town New England.
Vous avez raison. J'ai été dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre dans les années 1940-1950. Et quand j'avais j'ai eu 18 ans.
The winter of 1958-59,
j'ai décidé de fuir ma petite ville dans le nord-est de l'Angleterre et ma famille et mon enfance. Et de ce monde tout complètement fermé que cela représentait pour moi. Et la seule chose à laquelle j'avais pensé pour justifier cette fuite, c'était que j'allais partir en Floride et me débrouiller pour traverser, pour aller jusqu'à Cuba et aller aider la révolution cubaine et Fidel Castro, et qui à cette époque, évidemment, se cachait dans les montagnes et commençaient leur révolution. Et évidemment, vu pèlerinage parfaitement romantique que j'avais en tête. Je suis arrivé à Miami en décembre 1958 et dès janvier, j'avais pas encore réussi à trouver comment traverser. D'ailleurs, je pouvais pas parler un mot d'espagnol. D'autre part, Fidel et Che Guevara et les révolutionnaires étaient à La Havane et n'avaient plus besoin de moi pour faire leur révolution. Et donc, me voilà dans le point le plus au sud des États-Unis, à regarder la mer vers Cuba, vers les pays de mes fantasmes romantiques et politiques. Et donc, je suis restée en Floride. Alors, j'ai continué à dériver un petit peu. J'ai vécu dans les Keys de Floride. J'ai écrit mes premières nouvelles dans l'ombre d'Ernest Hemingway, qui était encore en vie à l'époque, et qui d'ailleurs vivait aussi à Cuba à l'époque. Et vraiment, j'ai commencé mes voyages avec ce premier geste romantique qui avait ses sous-entendus politiques, quelque naïf que ça a été à l'époque, et quelque adolescent que fussent ces fantasmes. Et pendant le reste de ma vie, j'ai l'impression que les 60 années qui ont suivi
m'ont toujours
paru, au bout de ces 60 ans, que le début de mes voyages, c'était les Caraïbes. Et j'y suis retournée dans les années 70. J'ai vécu en Jamaïque, j'ai voyagé à Haïti, j'ai été dans diverses îles. Et ce livre, Voyager, commence par une longue exploration de toutes les îles, 32 des îles des Caraïbes, des Antilles, de ce qui était aussi d'ailleurs un voyage d'amour avec la femme que j'allais épouser. Elle allait devenir ma quatrième femme. Et c'est ainsi que pendant tout ce voyage, ce long périple au travers des 32 îles qui a duré pendant 90 jours, d'île en île, j'essayais d'expliquer, de lui expliquer pendant que je la courtisais, comment c'était possible que j'ai été mariée 3 fois et divorcée 3 fois. Et je voulais l'épouser en quatrième et essayer de la convaincre de pourquoi il fallait qu'elle m'épouse malgré ses 3 précédentes tentatives.
Ce qui fait que le récit principal, donc de Voyager ou Voyager, qui est d'environ 150 pages, est une sorte d'entrecroisement, de retour sur des lieux que vous avez connus, aimés, et une espèce de monologue intérieur ou de conversation. Donc avec Chase, votre femme, pour lui dire voilà, j'étais là et voilà qui j'étais à cette époque et voilà ce qui s'est passé.
The first sentence in the book is this in English.
La phrase de ce livre est la suivante.
A man who has been married 4 times has a lot of explaining.
Un homme qui a été marié pendant 4 fois a beaucoup d'explications à donner. Et d'abord, la première chose qu'il doit faire, c'est de se l'expliquer à lui-même. Et véritablement, avant d'écrire ce livre, je ne m'étais jamais expliqué à moi-même. Et écrire ce livre, finalement, est devenu une tentative d'essayer de comprendre comment c'était possible que ça me soit arrivé. Que j'ai pu constamment tomber amoureux encore et encore et puis encore et puis encore.
Et
je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai réussi à convaincre cette femme, Chase, de m'épouser. Et maintenant, ça fait 30 ans que nous sommes mariés.
Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano.
Nuestro vino de plátano, nuestro vino. Y si sale agrio, es nuestro vino.
Ce récit dans Voyager, Russell Banks, c'est donc à la fois un récit documentaire d'écrivain voyageur et c'est une analyse et c'est une sorte d'épopée amoureuse. Vous employez d'ailleurs comme expression « faire votre cour »,« to court », j'imagine que c'était ça dans le texte original, « votre cour à Chase ». Et pour ne rien vous cacher, je me posais la question si un homme m'emmenait à travers les Caraïbes, à travers ces lieux magnifiques, etc., et me raconter sa vie sans arrêt, je ne sais pas si c'est une très bonne stratégie.
It probably was not the best idea.
En l'occurrence, c'était probablement pas la meilleure des idées.
But on the other hand,
mais d'un autre côté, elle récupérait des vacances de 90 jours à se promener d'île en île.
And some interesting boats
et on a vu des tas de bateaux intéressants, on a fait des vols tout à fait intéressants de lieux qu'elle n'aurait jamais visités sinon.
But you know, I was trying to
et vous savez, ce que j'essayais de faire en tant qu'écrivain, c'était utiliser ce genre du récit de voyage pour ouvrir les possibilités de véritables mémoires. Ce que j'avais jamais eu envie tellement de faire, mais c'était une manière utile d'accéder à ce désir que j'avais d'essayer de comprendre ce que j'avais fait et de comprendre le mystère que je découvrais à cette époque, ce mystère du vieillissement. Et donc c'est à la fois la mémoire, bien sûr, et la structure, c'est le voyage. Mais les thèmes sont l'amour, le mariage, et puis le fait de vieillir. Un homme qui a été très actif physiquement toute sa vie, et beaucoup de ses histoires d'alpinisme et de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et cet homme qui a atteint un âge où il y a maintenant une force qui décline, une énergie qui décline. La plupart des hommes, moi d'ailleurs y compris, préférerait nier ces effets de l'âge. Ou alors ils deviennent complètement hystériques, restent au lit et ne se lèvent plus. Et je ne voulais pas faire ça. Ni l'un, ni l'autre. Ni le nier, ni me coucher pour mourir. Être un invalide. Donc véritablement, la trame de cette narration, c'est ça. Je voudrais que ce livre soit lu presque comme si c'était un roman, de la page 1 à la page 300 et des poussières, la fin, et être lu et qu'il soit lu à la suite, parce que j'ai essayé de le structurer comme une narration. Au travers du temps. Ça part de mon enfance et ça continue. Ça parle de toutes les femmes que j'ai aimées, et à commencer par ma mère.
Alors effectivement, il y a une dimension mélancolique, amoureuse, courageuse dans ce livre. Et puis, il y a aussi un regard donc, sur toute une partie du monde qui a changé, que vous connaissez bien, que vous avez vu à un certain moment donc, de son histoire. Et on retrouve dans votre mémoire et sur le terrain donc un certain nombre des personnages, notamment de ce livre magnifique qui s'appelle « Le livre de la Jamaïque ». Vous étiez aventuré dans les profondeurs de cette île et notamment dans une communauté qui continue d'exister de manière un peu séparée, qui est absolument fascinante, qui est la communauté des Marrons, que vous avez formidablement décrite dans le livre de la Jamaïque. Ça a été une des expériences fondatrices pour vous, cette résilience donc de ces communautés issues de l'esclavage et qui étaient entrées en dissidence dans l'intérieur du pays.
Yeah, that's right. The novel,
c'est vrai. Le roman,
the Book of Jamaica,
le livre de la Jamaïque,
which I wrote in the
que j'ai écrit à la fin des années 70, après avoir vécu en Jamaïque, parle d'un homme qui rencontre un homme qui n'est pas bien différent du romancier lui-même, qui rencontre les communautés marrons dans les montagnes de la Jamaïque.
And in the late 70s.
À la fin des années 70.
And it was very important turning
point. C'était extrêmement important parce que ça a été un moment pivot pour moi, de bien des points de vue. Ça a été vraiment un moment profondément éducatif pour moi. En fait, ces deux années ont été profondément un moment d'éducation pour moi, où j'ai réussi à comprendre, comme je ne l'avais jamais fait auparavant, l'histoire de la race dans l'hémisphère, enfin dans le monde occidental, et particulièrement aux États-Unis et dans les Caraïbes. Et ces liens entre l'Afrique, la Caraïbe, l'Amérique du Nord, et jusqu'à aujourd'hui, et mon expérience d'Américain blanc, c'était extrêmement important comme période de ma vie. Ce qui était assez amusant pour moi, de certaines manières, et qui a complété qui a bouclé la boucle finalement, et que je décris dans ce livre, c'est que quand j'y suis retourné en Jamaïque, bien des années après avoir été là dans les années 70, donc à la fin des années 80. Alors je suis retournée dans ce village où j'étais restée, où j'avais été pendant, et où je m'étais créé des amitiés bien profondes, où j'avais été à cette époque. Il y avait deux touristes blancs américains, ce qui était extrêmement peu habituel, car c'était extrêmement difficile d'arriver jusque-là dans ces montagnes. Et très très peu de gens connaissaient cet endroit. Mais il y avait ces deux types. Et comment est-ce que c'était possible que ces deux personnes aient entendu parler de cet endroit ? Et ils avaient des copies, ils avaient des exemplaires complètement abîmés de mes livres. C'était deux personnes qui venaient de Boston, Massachusetts, et ils avaient utilisé le roman comme guide pour arriver dans cette communauté. Et ils sont arrivés jusqu'à moi, et un des hommes du village a dit, mais c'est lui, Russell Banks, c'est lui l'écrivain du livre que vous avez dans la main. Ils ont dit, mon Dieu, mais c'est pas possible.
And they, you know, they said, oh, Madeleine's never going to believe this.
Ah, ça, Madeleine, elle va jamais le croire.
And so they made me sign.
Et donc, ils m'ont fait écrire un autographe sur le livre. Alors, il faut que je fasse un peu plus attention à ce que je mets dans mes romans, parce qu'on pourrait utiliser ce que je mets dans mes romans comme guide touristique.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Russell Banks dans Tout un monde au festival Étonnant Voyageur. Une plongée dans votre passé, Russell Banks, ce dernier livre, Voyager, alors jeu de mots sur la sonde spatiale Voyager, et puis peut-être aussi sur cette voiture qui s'appelle le Voyager, dans laquelle en général les reporters entassent les sacs, les appareils photos, c'est aussi ça. Vous êtes un grand amoureux des voitures, il y a beaucoup de bagnoles dans Voyager. Il y a un moment où vous parlez d'une voiture que vous avez emmenée en Alaska, une espèce de voiture rouge. Alors ça s'appelle un Hummer, je ne sais pas si c'est à quoi ça correspond exactement. Et les voitures sont très présentes. Voyager, c'est un rapport aussi avec la voiture, qui est une sorte de monospace.
C'est étrange. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait tant de voitures dans le livre jusqu'à ce que mon éditeur me le dise. Et il voulait utiliser une voiture pour mettre sur la couverture. C'est arrivé aussi à un recueil de nouvelles que j'ai écrit il y a peu de temps, un membre permanent de la famille. Je me suis rendu compte qu'il y avait des chiens tout le long de mes nouvelles. Et je ne m'en étais pas rendu compte. C'est à nouveau l'éditeur qui s'en est rendu compte. Il y a peut-être 12 chiens au travers de toutes mes nouvelles.
C'est pour ça qu'il a mis un chien sur la couverture, d'ailleurs.
Et voilà, puisque c'est pour ça qu'il y a effectivement eu un chien sur la couverture. Et là, bon, bah, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les Américains de mon âge et de ma génération, on a grandi avec les voitures. C'est le moment le plus important de l'adolescence, ou peut-être de l'ensemble de la vie d'adulte. C'est ce moment où, à 16 ans, enfin, on a son permis, on a la liberté. On a le contrôle. J'ai décrit ce qui m'était arrivé quand j'avais 16 ans et que j'ai eu mon permis. J'étais très malheureux à la maison. Et j'étais enragé, pas content, turbulent, en colère. Et maintenant que j'avais un permis, j'ai volé une Oldsmobile de 1953 avec un copain. Et ça, c'était évidemment avant Kerouac. Kerouac, et c'était une imitation des Kerouac. On a pris la route 66 et on était arrivé jusqu'en Californie avant que la police nous coince. Et cette voiture, ça voulait tellement dire la vérité. Et c'est vrai au travers de toute ma vie. C'est vrai que j'adore les voitures. Ma femme a peur de me laisser sortir parce que, surtout quand il y a des salons de voitures, elle a peur que je revienne avec une GMC 1953, que j'achète un pick-up de rouge et une vieille Mercedes de 1957. On a l'impression qu'elle a été conduite par Idi Amin. Et puis, j'ai encore une Toyota toute neuve. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut faire attention à moi quand je suis près d'une voiture. Mais la description du Hummer, on m'a demandé, en fait, la raison pour laquelle j'étais dans ce Hummer, c'est qu'on m'a demandé
qui faisait marrer tout le monde, d'ailleurs. On se moquait de vous, en Alaska.
J'ai dû écrire un guide de voyage à propos de cette voiture. Et non, on ne se moquait pas de moi en Alaska à cause de cette voiture. Non.
Ils vous enviaient peut-être.
Maybe they envied you. Voilà. Les hommes et les garçons m'enviaient, ça c'est sûr. Et je me garais, les garçons et les hommes s'avançaient et voulaient la toucher, quoi, comme si c'était un beau cheval. Et moi, j'adore ça, qu'est-ce que vous voulez, j'adorerais la conduire, j'avais l'impression que j'étais comme Mike Tyson.
Alors Russell Banks, ce dernier livre, Voyager, récit de voyage, donc ce sont des retours aux sources. Vous revenez sur des itinéraires que vous avez pratiqués et puis vous revenez aussi sur les sources de la nation américaine. On sait que l'Amérique vous agace, vous met en colère très souvent. Et c'est aussi, faites une sorte de psychanalyse de l'Amérique, puisque dans les Caraïbes, au fond, vous agacez d'abord de voir tous ces touristes américains qui sont en pays conquis, et de cette notion qu'ont beaucoup d'Américains que finalement les Caraïbes, c'est une mer intérieure américaine. Et ensuite, vous allez à Gorée, aux sources donc de ce qui a été quand même la grande honte de l'Amérique, pas seulement de l'Amérique d'ailleurs, pas seulement des États-Unis, donc qui est l'esclavage. Donc toujours une suite de retours aux sources. Vous éprouvez en ce moment le besoin de revenir aux sources, back to basics.
This is true.
C'est vrai.
When you're an American, a white American, perhaps.
Quand on est un Américain blanc.
Importantly,
and you surtout travel, blanc, et qu'on voyage, on voit l'incroyable puissance des États-Unis et la façon dont ils s'étendent dans le reste du monde. Quand on est à l'intérieur des États-Unis, on ne se rend pas compte, on ne le voit pas, c'est quelque chose d'abstrait. Mais quand on est sur le terrain, dans une petite ville des Andes, en Équateur, ou qu'on est au Népal, ou qu'on est en Afrique de l'Ouest, ou qu'on est au Moyen-Orient, on voit ce bras de l'Empire qui s'étend et qui touche les vies de gens ordinaires, des gens qui essayent simplement de survivre à la journée, survivre à la semaine, survivre au mois, survivre aller jusqu'au bout de leur vie. Et c'est ce qui fait qu'un Américain qui aime son pays, sa culture, son histoire comme moi, ça peut vous rendre vraiment très très en colère de voir à quel point il y a une trahison de ces principes fondamentaux qui sous-tendent notre histoire.
Et ça résonne très fort en ce moment.
Yes, I'm sure it does.
Ouais, c'est sûr.
No, this is a time.
C'est une époque. J'ai déjà parlé de Donald Trump. Je l'appelle la trompette. J'en parle depuis que je suis arrivé en France, il y a 11 jours. Et ça ne me pose pas de problème de parler de lui, quoique ça me rende très anxieux et que je me mette vraiment mal à l'aise. Je crois qu'il est important que nous comprenions tous que ça n'est pas simplement un clown ridicule. C'est un homme qui est en train de créer une crise extrêmement dangereuse à l'intérieur de l'histoire américaine et de l'histoire du monde qui pourrait devenir absolument catastrophique et très vite et très facilement. Et il faut vraiment que nous y fassions attention. Nous devons être vigilants. Il ne faut pas qu'on se contente d'être amusé ou d'être gêné quand on est américain. Il faut vraiment, ça ne suffit pas d'avoir de la condescendance et de se moquer des gens qui ont voté pour lui. Il faut les prendre au sérieux. Il faut comprendre la peine, la douleur et la colère qui fait qu'ils ont voté pour lui. Et comme je continue, là, j'essaye de trouver des moyens de parler de cela, qui vont parler de ces préoccupations extrêmement profondes.
I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently, for fear of a mistake.
Calvin Russell, dédié aujourd'hui à Russell Banks, Crossroads, au Carrefour. C'est une chanson qu'on va dédier aussi à la mémoire de Jim Harrison, qui était votre ami, et qui est venu ici à Saint-Malo, je me souviens, l'avoir entendu dire, l'Amérique risque d'être fasciste. Alors lui, il avait dit, je me souviens, ça nous avait tous amusés, il faut voter pour les plus réactionnaires pour, en quelque sorte, vider le sac. Servir d'exutoire.
Il me manque, Jim.
Et
c'est vrai que pour moi, Saint-Malo, il y a aussi cette image de Jim qui y est associée. La première fois que je suis venu ici, Jim était là aussi. Nous avons pris le train, le train du livre, jamais vu tant d'écrivains de toute ma vie dans ce train. Et Harrison avait apporté une grosse valise. J'ai dit, Jim, enfin, pourquoi tu as cette immense valise? On est parti pour deux nuits. Il l'a ouverte et à l'intérieur, il y avait quatre bouteilles de vin, quatre gros saucissons, des baguettes, du fromage. Et il avait bien évidemment un tire-bouchon. Et on a mangé et on a bu sur tout le chemin de Paris à Saint-Malo. Et il avait re-rempli son stock pendant qu'il était à Saint-Malo. Et quand on a repris le train de Saint-Malo pour retourner à Paris, il y avait d'autres saucissons, d'autres fromages, des olives. Et on a continué à manger. J'étais surpris qu'il n'emporte pas des huîtres.
Alors dans Voyager, il y a plutôt du rhum blanc, il y a un peu de ganja, il y a des bons cigares, il y a moins de vin, c'est vrai.
Non,
c'est vrai. Mais ces épisodes se sont produits dans ma jeunesse. Et dans les années 60 et les années 70, j'étais un peu moins sérieux que maintenant. J'essaye aujourd'hui de ne pas utiliser tant d'énergie à faire des choses pas très bonnes.
Il y a d'ailleurs dans ce livre quelque chose qui est émouvant, c'est tout de même un accès à une forme de sagesse. Est-ce que vous le ressentez comme ça, Russell Banks? Un apaisement?
Yes, in certain ways.
Oui, d'une certaine manière. On espère toujours qu'il y a d'abord quelque chose, que la sagesse existe, que je pourrais quelque part trouver dans ma vie quelqu'un qui serait sage, qui pourrait me donner des conseils et pourrait m'apprendre la sagesse. J'avais l'impression de me trouver en recherche de sagesse quand j'étais à l'université. Je n'ai pas beaucoup d'espoir que je vais obtenir la sagesse. Mais c'est vrai que la quête continue. Et je crois en l'existence et la possibilité de l'espoir et de la sagesse.
Merci Russell Banks. On retrouve cette sagesse dans Voyager qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir passé
ce moment de 30 minutes avec nous à Saint-Malo, à Étonnant Voyageur. Tout un monde, le magazine des cultures. Merci à Dominique Chevalier qui vous prêtait sa voix. À la prise de son, Alexandre Martin, Élodie Royer, Gilles Manet. Chargé de production, Roland Dandalex. Réalisation, Vanessa Nadjar. Et merci au public de Saint-Malo. Sur France Culture, bien sûr, où vous avez rendez-vous maintenant avec Vincent Charpentier. Bonsoir, Vincent.